organismes là, qui travaillent justement à améliorer le sort de pays qui sont relativement pauvres ou qui ne sont pas capables d'avoir les prêts nécessaires pour construire leur société. Je vais vite là-dessus, là, mais bon, ces deux organismes-là ont des objectifs différents. L'IMF travaille surtout sur la stabilité des monnaies. La Banque mondiale travaille à donner des prêts justement à des pays qui sont plus en difficulté. Et par-dessus ça, ben pas par-dessus, mais à côté, tu as l'ONU, tu as Amnesty International, tu as un paquet d'organismes internationaux qui peuvent aider. Puis dans ça, ben, tu as vraiment une diversité complète des gens. Tu n'as pas juste des Blancs, tu as des Noirs, tu as des Hispaniques, tu as toutes les couleurs du monde entier, tu as toutes les ethnies. Alors, c'est ça. Puis tu regardes à côté, en République dominicaine, ça va bien?
Ça va bien. Ça va beaucoup mieux par rapport à Haïti. Ça va bien par rapport à Haïti, ouais.
Quand tu compares, c'est, je veux dire, ils sont à la même île, là. Ouais. Alors, il y a une ligne imaginaire entre les deux. Puis, alors, moi, je ne suis pas un spécialiste d'Haïti en partant. Je fais comme toi, je constate que c'est des problèmes qui ne font que perdurer que pour plusieurs années. Là, il y a de la violence. L'expérience de l'histoire nous indique que la violence va probablement mener à la création de gens encore plus violents. Et quand il y a des gens qui sortent du lot, qui s'auto-proclament despotes ou contrôleurs de la situation, ben là, c'est à ce moment-là que la communauté internationale intervient, soit par l'ONU, soit par d'autres moyens, pour dire « Non, là, c'est correct, là, on va y aller, puis on va s'occuper
de ça. » Parce que c'est des milliards qu'on a envoyés là, puis on enrichit tout le temps les grosses têtes en haut, puis la population n'a jamais accès à cet argent-là. Nous, étant blancs en majorité, c'est pas vrai que le Canada va dire « Ben nous, on va parrainer Haïti, puis on va mettre nos gens en place. »
Non, mais
ces gens-là n'accepteront jamais ça.
Je répète, là, moi, je parle pas d'un pays qui s'en va vers un autre pays, puis on va vous aider. Je parle d'organismes, de communautés internationales. C'est la responsabilité de l'ONU de s'en occuper, pas du Canada ou d'un autre pays, de dire on va vous montrer comment on va faire.
T'as pas l'impression que ces gens-là vont considérer l'aide comme des envahisseurs?
Bien, c'est à eux de décider.
Parce que c'est ça depuis des décennies,
Je veux dire, Haïti, c'est quand même un pays souverain.
Ouais.
S'ils veulent pas de l'aide, ils en veulent pas. Nous autres, on peut trouver ça bien triste puis bien plate, mais je veux dire, c'est comme si un autre pays venait nous dire ici au Québec, « Hey, vous gérez mal vos affaires, on va venir vous aider. » Ouais, mais si on veut pas.
Okay. Puis les communautés internationales, ils gèrent ça avec qui, là? Les envois d'argent puis tout ça, là?
Bien, avec les organismes qui sont sur le terrain. Quand c'est pas la Croix-Rouge, c'est d'autres organismes qui s'en vont aider les gens qui sont en souffrance.
Parce que les politiciens à Haïti, tu comprends que moi, j'ai aucune confiance en eux. Le président, bien là, il y avait Jovenel Moïse qui s'est fait tuer. Là. Mais tu sais, ces gens-là, dans l'histoire, nous ont tous appris qu'ils sont tous devenus multimillionnaires très rapidement. Il y en a qui se sont sauvés. Mm-hmm. Pensons à Papadoc puis Bébé Doc. C'est des gens qui n'ont jamais été positifs pour Haïti. Ils ont été positifs pour leur compte en banque, mais pour le reste, ça a été tout le temps de la misère. On dirait qu'il n'y en a pas de solution idéale pour Haïti.
Ben, je ne veux pas faire de mauvais parallèles, mais si on parle de deux minutes du Rwanda, là, du génocide du Rwanda, ça a pris quand même beaucoup de temps, trop de temps, avant que la communauté internationale se réveille et dire « Il y a un problème majeur qui se passe là-bas. » Et ça a commencé avec justement de la violence, un groupe contre un autre. Et puis là, ben, quand il y a eu assez de morts, à un moment donné, les gens se sont réveillés, puis on dit, la communauté internationale s'est réveillée, ils disent, OK, on va essayer de faire quelque chose. Mm-hmm. Et même encore là, ça a été dur et difficile. Alors, on ne veut pas que ça arrive à nulle part d'autre. On ne veut pas que ça arrive à Haïti. Là, la violence commence à Haïti. C'est déjà de la violence de trop. Et si on la laisse faire juste pour qu'on pense, nous autres, là, comme étant des gestionnaires de d'autres pays, que c'est une bonne affaire pour eux d'arriver à un bout du compte à un résultat positif, on ne peut pas le savoir. Souvent, je cite Neil Bohr qui avait dit « Faire des prédictions, c'est très difficile, surtout à propos de l'avenir.
» Ouais.
Alors, dans le cas qui nous regarde présentement à Haïti, cette violence-là, on peut pas prévoir que ça va aboutir à quelque chose de bon.
Non.
Si j'étais sur le Conseil de sécurité ou j'étais à l'ONU, je dirais « On y va immédiatement avec de l'aide internationale, qui n'est pas juste un pays en particulier, mais la communauté internationale. » On établit là, des règles de base pour subvenir aux gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas rien à manger ou quoi que ce soit. Mettre une police internationale, c'est-à-dire que tu peux envoyer des casques bleus, tu peux envoyer...
Comme on a déjà fait.
Puis
on a un des frères Trudel, là, les propriétaires de Place Fleur-de-Lys, William, qui a régulièrement été envoyé en mission à cet endroit-là. Puis je l'avais entendu en entrevue, puis... Écoute, c'est assez complexe là, pour ce qui est des policiers dans ces secteurs-là. Oui. Puis à un moment donné, il avait raconté à la radio, pas à moi, c'était pas moi qui l'avais en interview, mais il avait mentionné que quand ils ont des vérifications à faire à certains endroits ou quand ils ont des arrestations, ils partent du point A. Le point B étant l'endroit où il y a la personne concernée qu'on veut ramener avec nous. Donc, ils partent du point A, extrêmement rapidement. Il arrive au point B, il quitte en 10, 15, 20 secondes parce que tout le long du trajet, il y a des gens qui sont de la petite criminalité, là,
ouais.
qui sont chargés de la surveillance des policiers qui s'en vont dans chaque secteur.
Okay, ouais.
Et les communications se font extrêmement rapidement puis ça devient dangereux pour les policiers dans leurs interventions de rester là plus qu'une minute, deux minutes. Donc, c'est comme l'extraction, en fait. Ils partent du point A, s'en vont extraire le gars, le ramènent au point A, puis après ça, ils font ce qu'ils ont à faire.
Bien, c'est une question de volonté. Dans le cas d'Haïti puis de d'autres pays qui pourraient avoir de même des situations similaires, c'est une question de volonté. Parce que les moyens techniques, on les a. Si envoyer, exemple, je dis un chiffre fictif, envoyer 1000 policiers, c'est passé parce qu'il y a de la petite criminalité qui pourrait leur tomber dessus rapidement. On n'a rien qu'à en envoyer 5000. Si 5000, c'est pas assez suffisant, on peut en envoyer 10 000. Je veux dire, c'est pas une question de... Les solutions sont là, les moyens techniques sont là, l'argent est disponible, c'est une question de volonté. On abandonne Haïti ou on ne l'abandonne pas. Puis là, on parle de ce pays-là, mais on abandonne le Soudan ou on ne l'abandonne pas.
Mm-hmm.
Il y a des conflits dans le monde, il y en a partout présentement.
Très bon point.
Alors, on parle de...
C'est juste qu'à Haïti, on est plus concerné parce qu'on a des affinités avec cet endroit-là.
Il y a beaucoup d'immigrants haïtiens ici, au Québec. Bon, mais tu sais, on regarde là, ce qui se passe au Yémen. Je veux dire, les plus grandes famines là, de l'histoire qu'on est en train de vivre au Yémen, avec la guerre qui se passe là-bas. Encore là, c'est une question de volonté. Mais les organismes internationaux là, sont là pour ça, justement éviter qu'un pays qui agisse en colonisateur, si on veut, arrive à notre place et dise « nous, on va vous montrer comment ça marche ». Non. Alors, si l'ONU ne se réveille pas, ça prend, faut que ce soit d'autres organismes. Et malheureusement, l'ONU, je veux pas tomber là du jour, parce que c'est pas le sujet de la journée, mais je veux dire, ils l'ont échappé beaucoup. Là. Je veux dire, pas tout faire l'histoire. Avant l'ONU, il y avait d'autres choses. Il y avait la Ligue des Nations. La Ligue des Nations était censée empêcher les nouvelles guerres. Mm. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, fait qu'ils l'ont échappé solide.
Ouais.
L'ONU, il existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais des conflits, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est une question de volonté. Si on a la volonté, si l'ONU a la volonté, les membres de dire on va les aider, on y va. Mais souvent, ça prend beaucoup trop de morts puis de blessés avant que ça arrive.
Alors, on a plein de sujets à jaser ce soir, mais j'invite les auditeurs, là, parce qu'on parlait d'Haïti depuis quoi, à peu près 10 minutes, là, allez lire l'article de la presse sur Haïti. C'est à donner des cauchemars. Les gens qui habitent là ne doivent pas nécessairement bien dormir. OK, je regarde les dossiers. On va en faire un peut-être un peu plus local, là, mais on va passer très rapidement parce qu'il y a des dossiers internationaux qui m'intéressent grandement puis que tu m'as présenté avant de rentrer en onde. Dossier du tramway, le dossier d'affaires du tramway qui était supposé sortir fin mai. Moi, j'ai des informations comme quoi le prix est exorbitant. On me parle, puis je veux pas y croire, même si là, je me rends compte qu'il y a plusieurs sources. Il n'y en a pas juste une qui a comme radoté la même affaire à tout le monde. On parle de plus de 10 milliards de dollars, ce qui serait cauchemardesque pour un projet qui, au départ, devait coûter 3,2 milliards de dollars. On dit qu'on travaille à couper à certains endroits. On dit qu'on prend des factures X pour les prochaines années, puis on les refile. C'est le cas, entre autres, du RTC là, qui s'est ramassé presque un milliard là, dans le dossier du tramway pour ce qui est de l'entretien. Là, le dossier du tramway, le dossier d'affaires, était supposé être rendu public en fin mai. Okay? Donc là, on a dépassé, tu comprendras. Je te pose une question, toi qui as transité dans le merveilleux monde de la politique. Là. Quand vous aviez des mauvaises nouvelles, là, c'était quoi les moments idéaux pour passer ces mauvaises nouvelles-là? Il y avait le vendredi après-midi.
Ouais, ben ça, c'est avant les réseaux sociaux, parce que là, le vendredi, si tu laisses courir ça la fin de semaine, puis les réseaux sociaux s'emballent, tu crées l'inverse.
Ouais.
Mais
le vendredi, après ça, il y a quand quelqu'un, mettons, je sais pas, moi, je veux pas la tuer, là, mais mettons, Ginette Renault décède.
Ouais.
Tu dis, oh, on avait de mauvaises nouvelles à passer, c'est là qu'on l'annonce.
Idéalement, les mauvaises nouvelles, c'était dans les séries éliminatoires pendant que le Canadien gagnait, mais là, ça fait longtemps qu'ils nous aident pas politiquement.
Il y a comme des éclipses. Hein? c'est dans ces moments-là. Effectivement, le Canadien nous a pas aidés cette année, puis ce sera pas l'année
quand
prochaine.
Quand le Canadien est en série, tu passes toutes les mauvaises nouvelles-là, le monde s'en tient pas compte.
Ouais. Mais là, le dossier d'affaires, c'était supposé d'être fermé.
Ouais.
On me dit que ça va pas bien. On me dit que ça coûte beaucoup plus cher qu'on pensait, puis que là, on pense à couper certains endroits. Le maire Marchand, la semaine passée, a pris une semaine pour te gérer. Là, là il est ressorti hier, puis il a dit que l'échéancier, pour l'instant, était correct, qu'il allait nous revenir, advenant le cas où il y ait du retard. Mais moi, je sais qu'il y a un problème avec le montant actuel. Donc là, il nous a dit que le dossier du tramway, le dossier affaires, allait être rendu public au mois de juillet.
Oui, mais écoute, là, je reviens deux secondes à ce que tu viens de dire. Quand il est sorti publiquement là, récemment pour dire qu'il n'y a pas de retard à date. Là,
c'est hier, ça.
Bon, et il ne peut pas dire le contraire. Il peut pas dire, il peut pas sortir publiquement et dire « Ouais, long est en retard, ça va mal. Mm-hmm. » fait que dans le fond, on ne sait pas ce qui se passe. Il nous dit que ça va bien, mais on ne le sait pas dans les faits. Parce que là, de sortir ça au mois de juillet, bon...
Attends, le mois de juillet, là, moi, je suis en vacances, toi.
Ouais, il y a pas mal de monde en vacances.
L'Assemblée nationale?
T'es en vacances.
OK, fait que le PM est en vacances. Les députés?
Sont en vacances.
À la ville, d'après moi, les employés concernés beaucoup, doivent prendre juillet-août aussi, doivent prendre une couple de semaines là-dedans.
Il y a un gros 3 semaines, qu'il y a beaucoup de monde en vacances.
Chambre des communes à Ottawa, comment ça va?
Ah, ça va être en vacances.
Fait qu'ils vont sortir le dossier d'affaires au mois de juillet. Tu y crois-tu?
Non.
Non, moi non plus.
Premièrement, parce que je suis sûr qu'il va y avoir des retards encore, puis ainsi de suite. Parce que là, présentement, là, écoute, c'est pas compliqué, le monde n'est pas cave à temps plein. Là. Tout le monde le voit, c'est toute la planète qui subit l'inflation. C'est toute la planète qui subit des manques de ressources dans la chaîne d'alimentation, au niveau là, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources humaines. Alors, là, le projet a été pensé avant la pandémie, puis là, avec toutes les conséquences de la pandémie, ils pensent être capables de délivrer la même affaire au même coût. C'est impossible. N'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros bac là, pour des gros diplômes pour comprendre ça. Alors là, ce qui va arriver, puis ce qui est déjà commencé d'ailleurs, c'est qu'ils commencent à faire ce qu'on appelle de la comptabilité créative. Alors là, ils pèlent dans la cour du RTC des responsabilités qui n'étaient pas... Mais le RTC, c'est financier public. Quand vous payez un ticket de RTC, pour l'autobus, là, c'est, si je ne me trompe pas, 20... C'est-tu 30 %
ça a déjà été 26, mais mettons qu'on fait un chiffron, là, c'est 30
%. On va dire 30, là.
L'utilisateur paye son 30 % de la valeur de son passage.
C'est ça. Donc, il y a 70 % qui est payé par les divers paliers de gouvernement. Alors, ils ne sont pas rentables. Mais là, on va leur péter encore plus de responsabilités. Et comme je te disais avant d'entrer en onde, quand j'étais dans la campagne électorale l'automne passé, le RTC a invité tous les partis politiques à une séance d'information pour nous expliquer comment le RTC fonctionne, puis comment il s'en allait avec l'électrification des transports, puis le tramway, puis etc. Puis bon. C'était bien intéressant, parce qu'honnêtement, je pensais que le RTC était comme... un yes-man du gouvernement ou de la ville, à chaque fois que la ville demande de quoi, l'RTC le faisait. Puis dans le fond, c'est pas exactement comme ça. Même le RTC, quand ils veulent construire un abribus, il faut qu'ils passent par à peu près 3-4 ministères différents. C'est jamais facile, c'est jamais simple. Eux autres aussi, ils manquent d'argent. Et ils s'en font demander constamment. Alors, que la ville leur pèle des responsabilités, c'est un problème incroyable qui va se retrouver dans nos poches de toute manière. Mm-hmm. Parce que c'est pas une entreprise privée. Puis là, la ville, elle se rend bien compte qu'elle est obligée de couper. Parce que si elle veut garder un montant relativement raisonnable, on s'entend sur le mot relativement, là, c'est sûr qu'elle est obligée de couper dans son. Le trajet va être moins long. Ils ont déjà commencé à jaser de ça. D'ailleurs, le fameux tunnel là, au bout de René Lévesque là, qui ferait plus, puis bon, etc. Mais.
Ils n'auront pas le choix. Mais j'ai l'impression, dans mes fantasmes les plus fous, il y en a qui vont dire que c'est une niaiserie. Effectivement, c'est une niaiserie. Mais, tu sais, en face de l'hôtel de ville, il y a comme un petit parc là,
ouais,
où ils font des spectacles.
Ouais.
Ben, j'ai l'impression qu'on va avoir un train jouet. Un train jouet qui va tourner autour de ce petit parc-là. Ils vont dire il est là, notre
le maire va être assis dedans avec son petit chapeau. Là,
on vous l'avait promis 3,2 milliards de dollars. Ça va juste être le petit parc en face de l'hôtel de ville.
Ces gens-là sont obnubilés par. Aveuglés par leur propre orgueil.
Ils
ne sont pas capables de sortir comme faire une expérience, là, sortir de ton propre corps et regarder à l'extérieur ce qui se passe. Ils sont dans une bulle. Entre eux autres, ils s'aiment, sont dans un silo fermé. Et puis, ce que la population pense, ils n'en ont rien à foutre. Eux autres, ce qui les importe, c'est de parler au gouvernement qui leur assure que l'argent va être là. Puis là, ben, vu que tout coûte plus cher, la seule solution qui reste, c'est d'envoyer quelques factures ou ce qu'ils peuvent les envoyer ailleurs, comme RTC, etc., puis de couper dans le service. Mais ça va se faire. Et comme je dis souvent, puis je me répète, la seule façon que le projet ralentisse ou arrête ou change de façon drastique, c'est si l'opposition à la Ville de Québec décide de dire, ben nous autres, on participe à rien, on vient même plus à l'hôtel de ville tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un référendum. Parce qu'on jase de ça depuis des années, puis en fin de compte, c'est la population qui paye, c'est la population qui va subir, c'est les gens, les commerces qui sont déjà affectés par ça. Il y a déjà des commerces qui ont commencé à fermer parce qu'ils ont dit, non, moi, je ne veux pas avoir à vivre ça.
Mm-hmm.
Et la population n'a pas un mot à dire. Alors, qu'ils sortent ça au mois de juillet ou qu'ils sortent à l'automne, moi, tant que l'opposition ne se lève pas de bout, puis qu'elle sorte, puis qu'elle dit, les autres, on arrête là, parce que ça n'a pas de bon sens. Surtout si le montant est réellement au-dessus de 10 milliards. Je veux dire, là, c'est ridicule. Là.
Mm.
Mais as-tu l'impression qu'il va arrêter à 10 milliards?
Bien, tu sais, moi, j'ai plein d'extraits audio et vidéo de Bruno Marchand.
On en a des ricaires aussi, hein?
Qui disait, non, mais on n'est pas. On n'ira pas là avec un projet de 10 milliards, 15 milliards. Puis, tu sais, c'est pas étranger. Ce que j'ai vu comme vidéo passée de Bruno Marchand, là, quand il s'était avancé. Son absence la semaine passée, c'est pas étranger au fait qu'il a vu cette facture-là de 10 milliards de dollars puis il a de la misère à l'avaler. Ils vont être obligés de travailler extrêmement fort pour nous faire passer ça.
On a peut-être une chance que le fédéral dise « Oh, t'es peu, là, c'est assez. » Nous autres, on avait dit 40%, mais là, 40% de 10 milliards, c'est pas 40% de 4 milliards.
Ouais. C'est une bonne... on se pose la question. Là. On a hâte de voir.
Mais c'est
suite.
Certain que plus tu retardes à dire aux gens comment ça coûte, c'est parce que plus il y a de problèmes.
Mais tu parlais de l'opposition à Bruno Marchand. Là, ouais.
Il est minoritaire, hein, faut pas oublier ça.
Oui, mais là, Jean-François Gosselin, là, on peut le considérer comme dans son équipe maintenant? Là?
Non, celui-là, écoute, là,
un gars qui s'est farouchement opposé au tramway, qui est rendu co-président du comité sur la mobilité durable pour ce qui est de la couronne nord de Québec. Donc, il va s'occuper de la phase 2 et la phase 3 du tramway. Là.
C'est incroyable. ça, là, je veux dire, comment faire pour être poli? Là? Le monsieur a le droit de faire ce qu'il veut là, oui. dans la vie. Là. Ça, c'est une chose. Là. Mais... politiquement, quand tu te présentes, c'est parce que tu as des idées. Puis si une journée, tu dis blanc, puis le lendemain, tu dis noir, ben là, on vote pour toi. Pourquoi, là? Je veux dire, c'est pas juste une question qui était contre le tramway. C'est une question qui, lui, présentait une vision différente.
Ouais.
Puis les gens qui ont voté pour lui, c'est pour une vision différente. Qu'on aime le projet qui s'appelait Vals ou non, c'est ça. Alors, si on vote pour toi, puis au bout d'un an ou deux ans, tu es tanné ou tu es fatigué, puis tu décides de changer de camp, moi, je l'ai dit souvent... les élus, que ce soit au municipal, provincial ou fédéral, qui décident de changer de camp, ne devraient pas avoir le droit. Ils devraient être obligés de s'en aller indépendant jusqu'à la prochaine élection. Puis après ça, c'est la population qui décide si on te remet en place ou non. Mais là, c'est comme si dans le fond, il s'en allait. Il n'a pas annoncé qu'il s'en allait avec le parti de M. Marchand, mais c'est tout comme. Mm-hmm. Parce que dans le fond, il va juste ce qu'on dit en anglais rubber stamping. C'est-à-dire, ouais. chaque fois que le maire va demander de quoi, il va dire oui, puis il va y participer.
J'avais calé la chatte pour ce qui est de Jean-François Gosselin. Là, je l'ai calé devant lui en plus. Fait qu'il n'y a pas de cachette là. Quand il était venu me voir au mois de novembre ici à la station, à Boulevard, j'ai dit qu'il allait, être dans l'équipe de Bruno Marchand, puis il m'avait regardé comme sourire. Non, il y a pas, on n'a pas ouais. jasé de ça. Non. Et quelques mois plus tard, au niveau du positionnement ouais. là, au comité, à l'hôtel de ville, pour ce qui est des conseillers, on l'a mis directement à l'arrière, à droite de ouais. Bruno Marchand. Donc, les deux sont très, très près et il y a une très, très bonne ambiance. Hey, je veux c'est pas drôle, mais en même temps...
Une dernière parenthèse là-dessus. Là. Oui. En politique, là, la seule affaire là, qui peut te sauver ou qui peut... La qualité numéro un d'un politicien, là, c'est l'intégrité. Puis là, on a la preuve qu'il ne l'est pas. Alors, les gens en décideront de ce qu'ils veulent garder M. Gosselin ou pas aux prochaines élections. Ça, c'est pas un coup municipal, c'est provincial, pas fédéral. Si tu n'as pas d'intégrité en tant que politicien, qu'est-ce qui reste? Tu l'as dit souvent, on a parlé de M. Kerr, on a parlé de plein d'autres. Mais malheureusement, il y en a qui sont réélus souvent, même quand ils ne sont pas intègres.
Bien, parfois, la politique, tu sais, les gens ont plus besoin de la politique dans leur vie que la politique ont besoin d'eux. Il y en a qui peuvent avoir d'excellents salaires en politique et dans le privé, les salaires seraient pas. Ils suivraient pas.
Je comprends, mais ils n'arrivent pas là par magie, ces élus-là. Ils sont mis là par du monde qui ont voté pour.
Oui, entièrement d'accord. Ouais. Entièrement d'accord. Mais quand on s'accroche au pouvoir, ben ça donne qu'à un moment donné, il faut que tu piles sur tes valeurs fondamentales. Si c'était vraiment des valeurs fondamentales. Écoute, Joe Biden est sans doute un des deux, trois hommes les mieux protégés sur la planète. Là.
Mm-hmm.
Puis je ne sais pas si tu l'as vu sur Twitter, là. Ben ça oui. a été maintes fois
c'est,
repartagé.
C'est sûr, ça a fait le tour du monde.
Mais le gars aurait pu se faire tuer par un sac de sable qui avait été laissé traîner à terre. Ouais.
Ben, je pense que le sac de sable tenait le podium, ou du moins il solidifiait une affaire de même.
Mais t'es peu, là. Ah, t'es peu, là. T'sais, quand il se promène, là, lui, là, il y a un soldat là, de l'armée là, qui mm-hmm. est à côté.
Les services secrets.
Il se promène avec la valise football.
Ouais. Okay? Les codes nucléaires.
Il y a les services secrets autour de lui, puis quelques heures avant, quelques jours plus tard, il y avait de l'Advance Team qui était là oui. pour s'assurer de la sécurité.
Exact.
Il y a des snipers partout. De voir que l'homme le plus puissant du monde aurait pu être tué par un simple sac de sable laissé par terre, je trouve ça ironique.
Ouais, c'est... là, ça devient... Joe Biden, là, il a tellement commis de gaffes. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, il était en vélo, il est tombé. On le voit quand il marche, il y a de la misère. Il commence à avoir de la misère cognitivement. Au début, c'était relativement drôle. Là, ça devient... Il y a même beaucoup de gens là, à gauche, même dans le camp démocratique, ils disent oh, « c'est un problème. » Là, on le voit bien. Là. C'est la job la plus demandante au monde.
Ouais.
Régulièrement, aux États-Unis, au niveau là, de la presse de la Maison-Blanche, ils appellent ça « to put a lid », de mettre un couvert, c'est-à-dire qu'à partir de telle heure, les communications de la Maison-Blanche vont dire « on met un couvert sur les relations de presse parce que le président est occupé à faire X, Y, Z ». Mais quand tu regardes le nombre de fois où est-ce que ce couvert-là, guillemets, est mis dans la présidence de Joe Biden, comparativement avant avec Trump ou Obama ou même Bush ou peu importe, ça se compare même pas. Puis souvent, quand l'agenda du président sont quand même publics, et puis tu te rends compte que finalement, il n'y a rien de prévu, mais il y a un couvert de la presse. Ça veut dire qu'il se repose. Soit qu'il se repose à Maison-Blanche ou qu'il se repose chez eux dans son état ou peu importe. Et puis, écoute, je ne suis pas pour le défendre, mais à 80 ans, il était déjà pas si en forme que ça, parce qu'il y avait déjà des ACV, etc. Ouais. Donc, là, ça devient problématique parce que c'est la job la plus demandante et on le voit, les autres pays dans le monde en prennent avantage. Et le vide laissé par la force américaine, si on veut, en guillemets, est largement compensé par la Chine, entre autres, et d'autres pays qui prennent l'avantage sur le vide créé. Et ça, ben les Américains en général sont très, très inquiets de ça. Mais comme tu dis, les services secrets n'ont pas vu le sac de sable. Puis ils se sont pas doutés que le sac de sable pourrait les...
Puis tu sais, moi, je pense... Moi, je suis un peu cave, là, tu le sais. Là. C'est la raison pour laquelle tu me trouves drôle, des fois. Mais moi, je pense aux pauvres techniciens.
Ah ouais. Ben moi, je pense surtout aux services secrets. Parce que le service secret qui a fait le tour, là, lui, là, il y en a un dans la gang qui va se faire dire les sacs de sable le prochain coup. Là.
Mais c'est ça. Tu sais, le pauvre technicien là, qui doit être payé comme à 20$, là, qui met le sac là, qui a failli tuer le président des États-Unis.
Ouais. Alors, écoute...
Comment ça a été ta journée, mon amour?
Pas tellement bien.
Pas si pire.
C'est sûr que ça paraît pas bien, mais étonnamment, même Trump en a pas profité.
Non.
Parce que Trump, à un moment donné, il y a une couple d'années, quand il était président, il descendait une rampe, et il était sur un stage, justement, puis là, en sortant du stage, c'est une espèce de rampe, mais lui, ses souliers, vraiment très dispendieux, et puis la semelle est faite en cuir. Et là, il avait tombé, il y avait eu de la pluie un peu auparavant, et puis là, ben, la rampe était pleine d'eau, puis là, ben, du cuir, rampe, d'eau, avec un angle. Fait que là, il marchait très tranquillement, puis à petits pas. Puis là, tout le monde avait ri de lui, parce qu'il disait, comment ça qu'il marche de même, comme s'il avançait sur un lac de lave en fusion. Fait que lui avait dit, ben, il avait expliqué ça, ses souliers, etc. Fait que même il est sorti récemment pour dire non, du moins, je ris même plus de ça de Biden, parce qu'il dit ça en est rendu dramatique pour la représentativité des États-Unis sur la scène mondiale.
Oui. Puis là, il veut se représenter pour un autre mandat. On dirait que j'y crois pas. Possiblement qu'il. Est-ce qu'il pourrait dire, tu sais, avant que ça commence, est-ce qu'il pourrait dire finalement, pour des raisons de santé, j'irai pas.
Ah, en masse? Ben oui.
Mais c'est parce qu'ils seront pas prêts de l'autre côté.
Oh oui.
Ouais.
Bon, oui. Écoute, de toute façon, les élections, c'est 2024.
Ouais.
Là, les primaires républicaines, c'est quoi, les premiers débats commencent en août, je pense. Et je veux dire, jusqu'à temps que les bulletins, même les bulletins de vote aient été imprimés, ils pourraient changer d'idée. Là. Puis.
C'est Mais pas les démocrates pourraient être prêts à remplacer Biden demain matin?
Ben oui. Je veux dire, la quantité de candidats qui veulent aller là, je veux dire, tu sais, la vice-présidente Kamala Harris, elle pourrait lever la main tout de suite, dire, OK, moi, j'y vais.
Oh, dans le cas où elle passe, moi, je change de...
Planète?
Je change d'Amérique, là. On va peut-être aller faire un tour en Amérique du Sud.
Non, mais sinon, là, tu regardes le caucus démocratique, là, je veux dire, il y en a en masse des gens. C'est pas une question de candidats, c'est pas les candidats qui manquent, c'est l'argent. Parce que souvent, je le répète, là, puis les gens qui nous ont peut-être pas écouté les anciens podcasts, aux États-Unis, là, c'est vraiment une question d'argent parce que ce qu'on appelle les super PAC, les Super Political Action Committee, c'est des organismes qui sont pas liés aux candidats, mais qui peuvent ramasser des sommes infinies, il n'y a pas de limite. Ils peuvent ramasser 10, 100 millions, 1 milliard s'ils veulent. Et ces super PAC-là agissent au nom d'un candidat ou d'une candidate précise. Puis l'argent qu'ils ramassent, ils payent de la publicité avec ça. Alors, il n'y a pas de limite. Au Canada, il y a des limites d'argent qu'on peut donner aux partis, mais les super PAC, il n'y a pas de limite. Alors, le fait que tu passes président ou présidente, c'est ta capacité à ramasser de l'argent. Alors, des candidats, à toutes les élections, tu as des candidats indépendants que jamais personne n'a entendu parler, qui ne ramassent même pas 0,10% du vote. Alors, mais c'est sûr que à la dernière minute, il se dit, OK, je me désiste, puis c'est sûr que ça brasse, les médias en parlent, puis ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu veux? Le monsieur est rendu, l'âge, là, à un moment donné, ça vient tout nous rattraper, là.
Puis il n'y a pas de disposition dans la loi qui dit, là, avant que le candidat se présente pour devenir président des États-Unis, il faut qu'il fasse un bulletin médical, puis il faut qu'il réussisse à passer tel test avant de pouvoir le mettre
non.
comme candidat.
Non, en fait, pour être président des États-Unis, il y a juste trois règles. La Constitution a dit, il faut que tu aies au moins 35 ans, que tu aies au moins vécu aux États-Unis 14 ans, et puis que tu sois né aux États-Unis. C'est la seule, c'est les seuls trois critères. Il y avait une tradition que les présidents passent un test médical une ou deux fois par année, puis
ouais.
les résultats étaient donnés publiquement. Moi, je n'ai pas suivi ça là, récemment parce que c'est tel que tel, là, savoir le résultat médical. Mais il y a un article dans la Constitution, je m'en rappelle pas, je pense que c'est l'article 28 ou l'article 26, qui dit que si le président ne peut pas effectuer ses fonctions, soit parce qu'il est malade ou que... il devient sénile ou blessé ou quoi que ce soit. Alors là, le Congrès peut se rassembler et dire « OK, non, là, on met le vice-président en place, exemple.
Okay. »
Ça, ça paru.
On reste avec aux États-Unis, tiens. Les multiples poursuites dont...
Monsieur Trump.
Où Trump fait face. Là,
ouais, il y en a 4-5 à date.
Poursuites-là, ça peut-tu lui nuire à un moment donné où il n'y a rien qui peut l'empêcher de se rendre jusqu'aux élections et de redevenir président des États-Unis actif?
Rien ne peut l'empêcher. Et puis, faites vos recherches si ça vous intéresse. Mais comme je viens de dire, la Constitution a dit juste pour être président, pour te présenter, c'est comme je dis, 35 ans, tu as vécu 14 ans aux États-Unis et puis t'es né aux États-Unis. Et Trump pourrait être en prison, puis il pourrait quand même continuer sa campagne électorale. Si, quand il était président, il aurait été destitué, parce qu'il y a eu deux procédures d'impeachment, là, de destitution, c'est pas parce que tu es accusé qu'automatiquement, tu ne peux pas te représenter. Il aurait fallu qu'il soit trouvé coupable, puis que là, le Congrès l'ait trouvé coupable, c'est-à-dire les deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Évidemment, la Chambre des représentants, c'était les démocrates qui la contrôlaient, fait qu'eux autres, ils l'ont trouvé coupable. Mais le Sénat l'a pas trouvé coupable. Alors, il n'est pas coupable. Alors, c'est pas... Puis même s'il avait été coupable, c'est pas automatiquement parce que tu es coupable de destitution que tu n'as pas le droit de te représenter. Il aurait fallu que le Sénat et le Congrès au complet disent « En plus d'être coupable, on t'empêche de te représenter. » Là, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent de l'article 14, section 3 de la Constitution américaine qui dit que si tu es trouvé coupable d'insurrection contre les États-Unis, tu n'as pas le droit de te présenter. Mais ça n'a jamais été appliqué à la présidence. Ça a été appliqué à divers de gens qui travaillaient pour l'État ou des élus de moindre échelle, si on veut. Et puis ça, on est complètement en terrain inconnu. Mais encore là, il faut que tu sois trouvé coupable. Mais c'est qui te trouve coupable? Parce que c'est le département de la justice. Et là, le département de la justice, la décision est-tu entérinée par le Congrès? C'est toujours le Congrès qui a le dernier mot, mais là, tu as le Sénat qui est coupé en deux, moitié-moitié, puis tu as la Chambre des représentants qui est contrôlée par les Républicains. Donc, même s'il était trouvé coupable d'insurrection pour l'histoire du 6 janvier, alors il ne serait pas encore trouvé coupable au niveau du Congrès. Donc, présentement, à l'heure où on se parle, il n'y a absolument rien, puis même à l'heure où on se parle d'ici à 2024, à moins que Trump lui-même dise « je ne me représente pas », c'est sûr qu'il va être candidat dans les primaires. Et puis là, ben avec tous les candidats qui se présentent là, d'une journée à l'autre dans les primaires, on va voir qui va en sortir gagnant. Mais à date, il est en avant de tout le monde, loin, loin, loin. Donc,
il y a le deuxième qui est DeSantis. Là.
DeSantis à 25%, à peu près à 24 points quelques. Trump est à peu près à 50%. Là, tu as Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, qui se présente. Tu as son ancien vice-président Trump, là, Mike Pence, qui se présente. Tu as Nikki Haley. Tu en as une dizaine à peu près. Tu en as d'autres qui sont moins connus. Là. C'est tout du bon monde, je veux dire. Des candidats qui sont plus ou moins connus. Mais comme je te disais tantôt, là, je veux dire, c'est une question d'être capable de ramasser de l'argent. Qui dans ce gang-là est capable de ramasser de l'argent? Puis après ça, avoir la fougue d'aller sur un stage puis de se battre pendant un an et demi de temps contre le candidat démocrate, que ce soit Biden ou un autre.
Puis DeSantis, pour lui, ça va bien à l'Est, là. Ça va pas nécessairement bien.
Mais c'est
à
ça, il est très connu en Floride, mais je veux dire, il y a les 49 autres États, c'est comme, ouais, OK, c'est correct. Puis le gars n'a pas de fougue. Les débats ont beaucoup d'importance aux États-Unis, encore beaucoup plus qu'au Canada, puis encore plus qu'au Québec. Et puis, il y en a une quantité infinie d'ici les élections. Et puis, Trump, on dira qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quand il est sur un stage, il donne un show, le monde écoute, puis il est vigoureux. DeSantis, il parle tout le temps pas mal sur le même ton, puis c'est un gars, je suis raisonnable. Ouais, mais s'il y avait rien que DeSantis, puis Trump n'était pas dans l'équation, OK, DeSantis aurait des bonnes chances. Mais là, tu sais, t'as DeSantis, puis après ça, t'as Wayne Gretzky à côté. C'est comme, on va prendre Gretzky.
La couverture médiatique sur Trump versus celle des autres candidats, là, DeSantis, c'est Je veux dire, Trump va dire quelque chose, ça va être répandu à la grandeur de l'Amérique. DeSantis va dire quelque
monde.
Chose, ça va rester en Floride.
Et voilà.
C'est plate. Puis ça va parvenir à tes oreilles à toi.
Je veux dire, qu'on soit pour ou contre, là, la politique américaine, c'est un show.
Ouais.
C'est rendu un show, pour le bien et pour le mal. Et puis, si tu lèves pas, si les gens viennent pas à tes rencontres, quand tu fais des... Écoute, Trump, là, présentement, il se promène un peu partout, parce qu'il est en pré-campagne, évidemment. Il se promène avec son jet, le Trump Force One. Et puis...
Qu'est-ce qu'on dirait, un personnage de film?
C'est un personnage de film. Puis les gens sont conscients de ça. Puis les gens sont conscients que des fois, ils disent des menteries. Puis des fois, ils disent des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis des fois, ils exagèrent. Les gens savent ça. Mais ils regardent puis ils disent, OK, c'est quoi l'alternative? C'est tout le temps ça. Tu sais, au Québec, des fois, on même affaire au Canada, on dit, ah, ce serait dans le fond qu'on ait un politicien, une politicienne qui aurait ci, puis telle qualité. Puis... Ouais, mais on peut pas choisir. C'est pas comme aller au restaurant puis dire, je vais prendre telle affaire sur le menu. Faut que tu prennes ce qui t'est présenté. Alors, aux États-Unis, c'est ça. Alors, Trump, malgré tous ses défauts, les gens l'aiment pour ses défauts puis ses qualités. Puis quand il passe dans les médias, tout le monde en parle.
Un gars comme Dwayne The Rock Johnson,
ouais.
Lui a déjà mentionné qu'il aimerait un jour devenir président des États-Unis. Là.
Ouais.
T'sais, lui, là, sa fenêtre va être après l'ère Trump, après l'ère Biden.
Oui, ben c'est sûr que là, l'ère Trump, d'une manière ou d'une autre, elle achève. C'est-à-dire que soit il est réélu, soit il n'est pas réélu. Là, ouais. S'il n'est pas réélu, Trump ne se lancera pas à l'âge de 80 ans, là, c'est sûr et certain. Là. Alors, puis ça, le bilan des...
tu me dis ça, là, puis j'ai l'impression qu'il pourrait être là encore très longtemps, Donald Trump. Là.
Mais j'ai l'impression que c'est plus... tu sais, c'est un gars qui n'aime pas se perdre.
Non, exact. Il lâche jamais.
Puis lui, là, il a, dans sa tête, l'élection de 2020, ça l'a fait voler, puis il veut sa vengeance.
Ouais.
Fait que s'il est capable d'avoir sa vengeance contre les gens qui lui ont volé, c'est une chose. Mais avoir sa vengeance contre des gens qui ne lui auraient pas volé, parce que Biden ne sera pas là dans 4 ans, puis Hillary Clinton non plus, puis etc., c'est pas la même vengeance. T'sais. Quand tu veux te venger, c'est bien personnel. Alors, si la personne avec qui tu veux te venger n'est plus là, c'est plus ou moins.
Ouais.
Mais pour les vedettes là, d'Hollywood, puis ainsi de suite, là, ou des chanteurs, okay, le bilan n'est pas très reluisant. Là. Tu sais, quand Schwarzenegger était gouverneur en Californie, ça n'a pas été reluisant, son bilan. Ça a bien commencé, mais rapidement, il s'est rendu compte que la machine, un peu comme partout ailleurs, la machine administrative, la bureaucratie, puis les bureaucrates sont... Les bureaucrates restent, les politiciens passent. Hein? Fait que c'est pas...
Il y a Reagan aussi qui avait eu la présidence.
Oui, c'est ça. Il y a des exceptions,
ouais.
Mais ouais, c'est ça, il n'y en a pas tant, là.
Exact. Puis des bons, en plus. OK, on revient au Canada,
yes,
cher ami. Pierre Poilievre, qui en a fait une bonne, selon toi. Là,
ah non, mais ça, c'est incroyable. Là.
En parlant de la place Tiananmen.
C'est la place Tiananmen en Chine. Écoute, je trouve que ça a passé un peu inaperçu, ça, dans les médias. Ils n'en ont pas fait un grand plat, mais pour moi, c'est une erreur magistrale. Et c'est très, très dommage, parce que M. Poilievre, avec toutes ses qualités et ses défauts, lui, en étant chef du Parti conservateur du Canada, il se présente... Lui, dans le fond, là, il se présente à la population canadienne pour dire « Voici, je pourrais être votre chef, je pourrais être le premier ministre. Tu pourrais être le premier ministre d'un pays du G7. » C'est quand même pas rien. Alors, quand tu te présentes à la population, il faut toujours que tu aies, je parle métaphoriquement parlant, la carrure d'un chef d'État. Tu n'es pas un chef de parti, tu es un chef d'État en devenir. Alors, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est scruté à la loupe. Puis il y a des chroniqueurs politiques comme moi qui regardent ce qui se passe. Puis là, écoute, hier, la place Tiananmen, pour rappeler aux gens, là, ça s'est passé en 1989, entre le 15 avril et le 4 juin 1989.
Histoire atroce. Non?
Oui, c'est sûr. Ce qui est arrivé, c'est que des étudiants et des citoyens chinois qui voulaient plus de liberté et de démocratie, qui ont décidé de manifester. Et puis à un moment donné, le gouvernement, à l'époque chinois, s'est tanné, puis on dit « on va ouvrir le feu, puis on va en éliminer quelques-uns ». Et là, il y a des gens qui sont décédés et ça s'est terminé le 4 juin. Alors là, dans le monde démocratique, surtout l'Ouest, l'Occident, le 4 juin est souvent commémoré parce qu'il y a des gens, comme je t'ai dit, qui sont décédés. Et là, M. Poilievre a décidé d'écrire un texte qu'il a publié sur le site du Parti conservateur. Alors non seulement c'est une erreur personnelle pour lui, mais c'est une erreur pour le parti d'avoir émis ce texte-là. Et je lis juste une petite partie, là, c'est une phrase là, qui est... Vous pourrez aller lire vous-même si vous voulez. Là. Et dans le fond, lui, là, il reproche au gouvernement chinois de ces atrocités-là de 1989. Et là, je le cite dans son texte. « Le Parti communiste de Pékin n'a pas réussi à expier sa cruauté, qu'il s'agisse du génocide des Ouïghours au Xinjiang, de l'agression en mer de Chine méridionale ou de la persécution des Canadiens d'origine chinoise au Canada, il est devenu évident que nous devons nous opposer au gouvernement communiste de Pékin. Fin de la citation. C'est pas n'importe quoi, cette phrase-là. Évidemment, le texte est plus long que ça. Lui, là, il s'en va faire la morale et insulte un pays souverain. Qu'on soit d'accord ou pas avec la Chine, avec leur façon de faire, avec le gouvernement, c'est pas de nos affaires. On peut s'en occuper, on peut s'intéresser, évidemment. Mais en tant que chef d'État d'un pays souverain qui s'en va dire à un autre, là, t'es pas correct, t'as fait ci, t'as fait ça, puis on va te dénoncer mondialement d'un pays envers un autre, c'est une erreur diplomatique majeure. Évidemment, la Chine en tient compte. N'importe quel pays en tient compte, en fin de compte. Imagine si la Chine se revirait de bord et elle disait au Québec, « Hey, vous savez quoi? Les personnes âgées là, dans la COVID, là, qui sont mortes de soif et de faim, là, c'est pas correct. Vous devriez changer vos manières de faire. » Hey, vous savez, les Canadiens, mettons, les Chinois...
Non, dire que les Chinois pourraient parler comme la radio de Québec, mettons.
Mettons,
c'est pas bien de laisser les personnes âgées mourir de soif, de faim.
Mettons, le gouvernement chinois dirait au gouvernement canadien, dit, hey, les enfants autochtones là, qui sont décédés, là, qu'on a trouvés dans les cimetières à Kamloops, là, c'est pas correct. Vous devriez être traité en justice.
Ouais, je comprends.
Expier votre cruauté. Mmh.
Le problème étant que Pierre Poilievre semble écrire pour les Canadiens. Il semble pas écrire pour la communauté internationale. Lui, il veut se faire élire tout simplement. Il veut se montrer sous son meilleur jour. Le programme des conservateurs est un programme qui est extrêmement intéressant, beaucoup plus au niveau financier que ce qu'on peut voir du côté du Parti libéral du Canada. Mais c'est ça. Cette lettre-là, moi, la façon dont je l'ai perçue, puis c'est la raison pour laquelle tu es avec moi, là, c'est pour m'épauler dans ce genre de politique-là, parce que toi, t'as déjà été à l'intérieur de la machine. Moi, cette lettre-là, je l'ai perçue comme s'il écrivait aux Canadiens. C'est-à-dire, moi, je dénonce ce que ces gens-là ont fait à leur population, puis voici ce que je ne ferai jamais chez nous. Bon. Il est vu de... Tu sais, le Parti conservateur, pas partout, là, mais à certains endroits au Québec, mettons, sur le plateau, le Parti conservateur est vu comme étant un parti de droite radicale, alors que c'est pas ça, mais pas ça, pantoute. Mais si, justement, ces gens-là du plateau qui se fient sur des oui-dire tombent sur cette fameuse lettre de Pierre Poilievre, vont dire, finalement, il n'est pas si pire. C'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Oui, mais je comprends, toi, au niveau de la vision internationale.
C'est parce que quand tu émets ça publiquement, c'est le monde entier qui le lit.
Ouais.
Alors, tu t'adresses aux Canadiens, mais tout le monde le lit, tout le monde l'écoute, tout le monde le voit. Et puis, regarde, il n'y a pas une semaine qui passe pas sans que les... Là, on ne tombera pas dans ce sujet-là, mais je te donne un exemple. Il n'y a pas une semaine que le gouvernement russe n'émet pas une liste pour dire « Voici les gens maintenant qui ne sont plus ennemis en Russie. » Parce qu'ils ont commenté contre nous autres, ou etc. La Chine, c'est un partenaire du Canada. C'est un partenaire économique, c'est un partenaire diplomatique, c'est un partenaire sur plein de choses. La Chine fait partie du Conseil de sécurité permanent de l'ONU. Mm-hmm. Alors, c'est pas d'encenser la Chine. C'est pas de défendre la Chine sur ce qu'ils ont fait à la place Tiananmen. C'est de dire, toi, M. Poilievre, en tant que futur chef du Canada, si tu es élu, qu'est-ce que tu as à gagner d'aller insulter un pays souverain sur un événement qui est arrivé dans le passé? C'est comme si on sortait, en fin de compte, à tous les années à la commémoration d'une tragédie de la Deuxième Guerre mondiale pour vous dire, vous, là, les Allemands, là, avez-vous expié les cruautés que vous avez faites? Diplomatiquement, ça ne se fait pas. Et je te donne un bon exemple. Le pire là-dedans, c'est que M. Poilievre sort ça le 5 juin, hier, et puis il y a une semaine, le 25 mai, M. Trudeau nous annonçait qu'il y avait une ouverture sur... réouvrir les relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite. Parce que si vous vous rappelez, dans le temps de Chrystia Freeland, qui était ministre des Affaires étrangères en 2018, elle avait critiqué fortement l'Arabie saoudite. Il y avait eu le décès du journaliste Jamal Khashoggi. Il y avait eu l'emprisonnement là, de la femme de M. Badawi puis d'autres femmes aussi en Arabie saoudite.
Raif.
Exactement. Alors, Mme Freeland avait cru bon d'aller sur Twitter pour dire à l'Arabie saoudite, vous êtes des pas fins puis vous devriez changer votre manière de faire. L'Arabie saoudite a fait... ce que n'importe quel autre pays a fait. Ils ont dit, ça ne marche pas comme ça, la diplomatie. Alors, ils ont fermé l'ambassade au Canada. Ils ont dit aux étudiants arabes qui étaient ici de sortir. Ils ont coupé un paquet d'investissements, etc. Et ça, cette chicane-là a duré 5 ans, parce que c'était en 2018. Et maintenant, M. Trudeau, la semaine passée, dit, on renormalise les relations avec l'Arabie saoudite. Là, en novembre passé, au sommet de l'APEC à Bangkok, M. Trudeau est allé jaser en couloir avec Mohammed bin Salman, qui est le prince héritier là, du royaume de l'Arabie saoudite. Puis ils se sont entendus. Maintenant, on ne le savait pas en novembre, mais là, on l'apprend là, que finalement, ils ont réussi à négocier quelque chose pour dire qu'il faudrait recommencer à se parler. Parce que les relations internationales, là, c'est de faire affaire avec des gens que peut-être tu ne veux pas faire affaire, mais tu n'as pas le choix de faire affaire. Il y a un proverbe arabe qui dit « Choisis tes voisins avant ta maison ». Tu sais, quand tu veux t'acheter une maison, là, oui. Tu vois une belle maison, une belle cette maison-là, tu l'achètes, finalement, tu te rends compte que tes voisins ne sont pas endurables, là, t'es fait. Alors, mais dans le géopolitique, puis dans la diplomatie internationale, le voisin, tu ne choisis pas. Le pays qui est à côté de toi, il est là, il faut que tu fasses avec. Puis étant donné que l'économie internationale est toute interreliée, tu ne peux pas sortir sur Twitter ou sur une lettre sur un site web comme M. Poilievre pour dire, hey, vous autres, là, vous n'êtes pas corrects, puis vous allez changer vos affaires de fer. Puis en plus, là, les Chinois, le peuple chinois, c'est un des plus vieux peuples de la Terre. Ça fait 5000 ans qu'ils sont là. Le Québec, c'est quoi? C'est 415 ans?
400 quelques années d'histoire.
Les États-Unis, moins que ça, même pas 300 ans. Alors, c'est comme si toi, tu avais un étudiant là, qui sortait de l'école qui disait, la première journée qu'il est engagé à Boulevard, puis il dirait, Yannick, il faudrait que je change ta manière de faire de la radio.
Ah,
puis
ça, là, on appelle ça cette nouvelle génération d'animateurs de radio.
Là, je paraphrase beaucoup, mais tout ça pour dire que je suis très déçu de M. Poilievre. Ça fait pas chef d'État du tout. Les Chinois vont se rappeler de cette insulte-là. Et j'espère que M. Poilievre et le Parti conservateur vont remédier à cette erreur-là rapidement pour pas que ça fasse comme que ça a fait avec l'Arabie saoudite.
All right. Est-ce que on parle du FBI?
Oui, monsieur.
Parce que je trouve ce dossier-là extrêmement intéressant. C'est le directeur du FBI,
Christopher Wray, qui
risque un outrage au Congrès.
Oui,
ça
monsieur.
Va très mal aller pour lui s'il ne fait pas ce qu'il devrait faire.
Là, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y aurait un lanceur d'alerte, un whistleblower.
Une gorge profonde.
Oui. Une personne qui serait sortie, qui aurait informé le FBI il n'y a pas si longtemps, avec des preuves qui semblerait tangible, parce que cet informateur-là n'est pas un nouveau venu, c'est un informateur qui travaille depuis de longue date avec l'FBI, même du temps d'Obama. Alors, c'est une source qui est crédible. Et cette source crédible-là a informé l'FBI qu'il y aurait des preuves comme quoi que M. Joe Biden, le président des États-Unis, quand il était vice-président, aurait reçu des pots de vin pour faire de l'ingérence politique aux États-Unis. Il aurait reçu 5 millions de dollars. Alors, les preuves, il paraît qu'ils sont là. Bien, pour l'instant, on ne les a pas, ces preuves-là. C'est juste pas un affidavit, mais en fait, compte, il a fait une déclaration FBI dans un document là, qu'on appelle un FD-1023, pour être précis. Et ce FD-1023-là, le Congrès veut l'avoir. Évidemment, la Chambre des représentants est contrôlée par les Républicains. Alors, eux autres sont intéressés à ce que M. Biden passe un mauvais quart d'heure. Et puis, c'est une question aussi de sécurité nationale. Hein. Si le président, en tant que vice-président, a reçu des pots de vin dans le temps, c'est un grave problème. Alors là, le Congrès veut avoir ce document-là, mais le directeur du FBI, Christopher Wray, a dit non, je ne peux pas vous le donner. Si je vous le donne, il pourrait y avoir des secrets et des méthodes de faire qui seraient dans ce document-là qui pourraient mettre en péril soit les méthodes de faire du FBI ou soit même la vie du lanceur d'alerte. Et là, hier au Congrès, le FBI a dit, ou avant-hier, la vie est en jeu de ce lanceur d'alerte-là si son identité est révélée. Il pourrait mourir, là. Alors, le Congrès ne change pas d'idée. Il y a des manières de fonctionner au Congrès qui permettent de sécuriser l'identité de ce lanceur d'alerte-là. Et le Congrès a dit aux directeurs du FBI, si jeudi, on n'a pas le document, c'est un outrage au Congrès. Et là, on tombe en terrain inconnu, si on veut, parce que les outrages au Congrès du FBI, du directeur du FBI, à ma connaissance, je ne me rappelle pas d'avoir vu passer ça. Alors, est-ce que le directeur va démissionner? Pour protéger ses sources, il n'a pas donné le document, ce qui va carrément être démis de ses fonctions. Et, okay.
Est-ce que le directeur du FBI, son patron en haut, c'est Joe Biden?
Oui, ultimement, le président a le loisir de. Parce que dans ces hauts placés-là, ils servent ce qu'ils disent We serve at the pleasure of the president. Alors, on se rappellera que Comey avait été éliminé par Trump. Mm-hmm. Comey, qui avait ingéré de façon éhontée pendant la campagne électorale contre Hillary, contre Trump. En tout cas, bref, ça a été vraiment un fiasco total. Mais Trump s'en est débarrassé. Il dit « OK, toi, c'est assez, on en met. » Et puis, mais c'est pas le président qui décide. Là, il peut décider, mais il décide que tu pars, mais il peut pas mettre n'importe qui, là, n'importe comment. À la limite, ça pourrait, mais bon, ça s'est pas vu là, dans les dernières décennies. Et puis, M. Ray pourrait être démis de ses fonctions par Joe Biden, mais là, c'est que ça donne l'impression, et c'est peut-être une fausse impression, en fait, c'est probablement une fausse impression, le fait que M. Ray ne veut pas donner le document, ça donne l'impression qu'il protège la famille Biden.
Exact.
Mais dans le fond, lui, ce qu'il dit, puis ce qui est dur à prouver, c'est qu'il dit, moi, je ne peux pas dévoiler ce qu'il y a dans le document de façon publique, parce que ça met en péril non seulement l'identité du lanceur d'alerte, mais en plus nos méthodes de faire. Les méthodes de faire, là, c'est que la police, tous les corps de police dans le monde ont des méthodes d'enquête, que si ces méthodes d'enquête-là sont révélées au grand public, ben là, ils viennent de perdre un avantage contre les criminels. Mm-hmm. Il y en a pas ça, des tradecraft, des trade secrets en anglais. Et là, ben c'est dur, faut que tu crois sur parole, la personne qui t'a dit ça, je peux pas te le dire parce que c'est un secret d'État. Si je te le dis, tout le monde est en péril. J'ai pas de preuves à te donner parce que si je te les donne, le secret est en péril. Alors... Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que le Congrès va tenir son bout puis déclarer un outrage au Congrès jeudi, qui est dans deux jours, au moment où on se parle, à la date où on enregistre le podcast. Ça va être très intéressant à voir parce que là, ça va être une, je ne veux pas dire une crise politique, mais presque, parce que le directeur du FBI aux États-Unis, c'est quand même très prestigieux et très respecté. Mais dans les dernières années, avec le rapport qui est sorti là, de Durham il y a quelques semaines, qu'on n'en parle déjà plus maintenant, le rapport de Durham qui a duré 4 ans, qui était sur l'enquête, parce que tu sais, là, Trump se faisait accuser d'avoir collusionné avec les Russes, etc. Ben, ils ont mis un enquêteur là-dessus pendant 4 ans, c'est Durham, et son rapport est sorti il y a quelques semaines pour dire finalement non, le FBI a erré à plusieurs étapes et à plusieurs égards. Et là, on se s'est rendu compte que finalement, même à l'intérieur du FBI, il y a des gens qui sont très biaisés. Et malheureusement, personne n'est accusé, puis il n'y a personne qui est allé en prison à date encore à cause de ça. Mais là, les gens aux États-Unis sont très ébranlés parce que c'est comme si on disait ici l'équivalent de dire ben, à la GRC, il y a du monde qui sont tellement biaisés là, qu'ils pourraient défendre tel parti ou tel parti. Alors là, si l'appareil judiciaire est biaisé, qu'est-ce qui nous reste là, comme dernier rempart pour nous protéger? Tu sais, dans une démocratie, les trois grands pouvoirs sont séparés, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Mais là, si tu n'as plus confiance au pouvoir judiciaire, le pouvoir, tu sais, la confiance envers les élus n'est déjà pas forte. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Alors, ce qui se passe jeudi là, au Congrès, ça va être très intéressant à voir.
Très intéressant. Puis on va suivre ça pour vous, puis on va vous en parler vendredi. Hey, il reste 2-3 minutes, mais je veux vraiment en parler de ça. Ça me fait penser à quand on était jeune, il y avait Pierre Laporte, qui était un animateur, pas celui qui est décédé. Là, puis ouais. On a donné le nom...
l'ancien ministre.
Oui, exact, l'ancien ministre, qu'on a donné le nom au pont. Mais Pierre Laporte, qui était acteur, faisait une émission qui s'appelait Dossier mystère.
Dossier mystère.
Et il disait tout le temps, quelqu'un, quelque part, connaît la vérité. Et là, ben, on parle du dossier de David Grush.
David Grush.
On parle de je sais pas, d'aéronefs extraterrestres.
Des extraterrestres.
Des extraterrestres.
Oui, il s'appelle Richard Glenn.
Richard Glenn.
Des extraterrestres.
Oui, il s'appelle Richard Glenn.
Mais tu sais, le dossier mystère, c'était l'émission originale, c'était Unsolved Mysteries aux États-Unis.
Exact.
Mais la personne qui faisait l'animation aux États-Unis, c'était Robert Stack.
OK.
Puis Robert Stack avait une voix épouvantable, là, je veux dire, une voix grave, là, très solennelle. Ouais.
Il y a eu 2 animateurs ou 3 animateurs de Dossier mystère, mais moi, celui qui m'avait marqué, c'était vraiment Pierre Laporte avec une voix très ténébreuse. Puis tu sais quoi, dans le dernier Dossier mystère, c'est là où moi j'ai vu pour la première fois mon ami, un homme qui est devenu mon ami maintenant, Christian Page.
Ah ben oui,
l'enquêteur du paranormal.
Écoute, ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez intéressant, c'est que... Hier, pas plus tard qu'hier, un site qui s'appelle News Nation, on aurait pu penser que ça aurait pu sortir de ABC, CBS ou une grosse affaire. Non, c'est un relativement petit média qui s'appelle News Nation, qui a une entrevue avec un monsieur qui s'appelle David Grush, qui lui qui est un vétéran de l'Air Force aux États-Unis, et son CV est quand même impressionnant, là. Lui, là, il y avait les clearance, en français, on appelle ça les autorisations pour voir des choses très secrètes. Alors, il y a plusieurs degrés là, de secret, top secret, puis bon, etc. Lui était dans le top de ça. Il avait accès à plus de 2000 programmes secrets aux États-Unis et son CV est validé. Alors, c'est pas, là, on pense que... Non, non, c'est vraiment quelqu'un des forces armées qui était très haut placé. C'est surprenant parce qu'il est relativement jeune, mais le CV est confirmé. Et ce monsieur-là est sorti hier pour dire « Le gouvernement américain vous ment, on a des véhicules extraterrestres en notre possession. » C'est aussi simple que ça. Alors lui, non seulement il confirme que les UFO, en anglais, « Unidentified Flying Object », les ovnis, non seulement ça existe, mais en plus, ces ovnis-là ne sont pas d'origine humaine. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais dans les dernières années, il y a plusieurs vidéos qui se promènent sur Internet où on voit des ovnis, mais ça ressemble à des tic-tac. Ouais, ils appellent carrément des tic-tac.
Des petites boules sphériques.
Ouais, des boules qui se promènent à une vitesse incroyable, puis qui tournent sur 90 degrés, puis ils changent. Dans le fond, ils défient les lois là, de l'avionique, là, si on veut.
Fait que c'est ce qui. Il y aurait ça, là.
Ben là, lui, c'est ce qu'il prétend. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que la semaine passée, la NASA a fait pour la première fois, sorti un rapport pour la première fois de son existence, parce qu'eux autres travaillent aussi là-dessus. Alors, il y a un programme au Pentagone, il y a un programme à NASA. La semaine passée, la NASA sort, c'est un panel de 16 spécialistes pour dire, nous, on travaille là-dessus. Puis finalement, nos résultats à date, là, c'est qu'on n'a pas assez de preuves pour dire si ça existe ou pas. Mais ça devient de plus en plus sérieux parce que c'est plus le domaine des gens un peu bizarroïdes là, qui disent « Moi, j'ai vu un ovni, puis bon. » Non, là, c'est la NASA qui s'en occupe. C'est des anciens vétérans des forces armées qui sortent publiquement. Alors là, puis là, tu as des sites web, tu as des sites, des médias sérieux comme Politico, comme Washington Post qui en parlent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir... Là, présentement, c'est sérieux. C'est-à-dire que les médias sérieux s'en mêlent. Là, il y a des enquêtes qui sont faites là-dessus à savoir si c'est vrai ou pas. On les voit, les vidéos sont disponibles sur Internet pour voir ces engins-là qui défient les lois de l'avionique. Et puis, ben, vu que c'est sorti hier, évidemment, là, c'est tout frais, tout beau, tout nouveau. Mais ce monsieur-là va être évidemment là, questionné, évalué, etc. Ouais.
Moi, j'ai surtout hâte de voir comment il va vendre ses histoires. Moi, je doute souvent de ça.
Ben, c'est sûr, c'est sûr.
Tu sais, pour connaître un peu le merveilleux monde de l'aviation, là, on n'est pas tous des génies. Là. Et on n'a pas travaillé dans l'aéronautique nécessairement. On ne travaille pas avec des forces armées, que ce soit les Américains ou les Canadiens, tu sais, au niveau des laboratoires pour mettre en place des avions qui vont défier
les
lois de la physique. Tu sais, un pilote, il est dans son avion, il pilote son 747, puis il prend les gens au Québec, puis il les amène au Mexique. Mm-hmm. Lui, là, il a son cours privé qui a coûté 10 000 $ il a son cours commercial qui a coûté 50 000 puis après ça, il a acheté des cours pour réussir à un jour rentrer dans son fameux 747. Mais jamais il a étudié, là, tu sais, comme les ingénieurs peuvent étudier. Mm-hmm. Puis, donc, lui, quand il est dans les airs, puis il voit quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il connaît, son interprétation va être à la hauteur de ses connaissances dans le milieu aéronautique.
Certainement. Là.
Sauf que quelqu'un qui est un peu comme David Grush, David Grush, lui, il a accès aux plus grands secrets. Il est capable de savoir qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui est anormal. Et lui aurait eu accès à de l'information sensible comme quoi... Il y a des vaisseaux.
Donner des radars, etc.
C'est ça. Il y a des vaisseaux que l'armée américaine détient qui ne proviendraient pas d'ici.
Les vidéos nous montrent qu'il y a des choses bizarres qui se passent.
Ouais.
De là, la marche entre dire OK, c'est des choses bizarres puis c'est des extraterrestres, la marche est haute.
C'est ça.
Mais là, c'est ce qu'il vient de dire hier. Alors là, la NASA s'en occupe, le Pentagone s'en occupe, les médias sérieux s'en occupent. C'est une histoire en développement. Dans les prochains jours, prochaines semaines, on va voir si ces affirmations tiennent la route. À date, son CV tient la route. Il reste à voir si ses affirmations tiennent la route.
C'est parce qu'on donne un exemple comme ça. Sur une île déserte, il y a un homme qui habite là depuis 100 ans. Il n'a jamais croisé personne.
Ouais.
Puis là, tout d'un coup, il va voir quelque chose qui s'apparente à être un objet non identifié. Mais c'est normal, il n'en a jamais vu en haut.
Ouais.
Mais là, pour nous, c'est un drone.
Ouais.
Pour lui, c'est la première fois qu'il voit ça. Donc, il va y aller avec son interprétation. S'il rencontre quelqu'un pour la première fois de sa vie, il va lui dire... J'ai vu quelque chose dans le ciel qui allait à une vitesse beaucoup trop rapide, qui avait des mouvements que je ne comprenais pas nécessairement. Puis, écoute, d'après moi, ça vient d'ailleurs. Mais pour nous, c'est juste un drone. Parce qu'on connaît ça, les drones.
Je suis d'accord avec toi. Et puis, peut-être pour finir là-dessus, je vais citer Carl Sagan, un de mes scientifiques préférés, qui avait fameusement dit il y a longtemps, « Si vous faites des affirmations extraordinaires, ça prend des preuves extraordinaires. » Alors là, on a les affirmations extraordinaires hier, on attend les preuves extraordinaires.
Ben oui, Hey, on a passé un beau moment avec toi. Puis là, écoute, je vais être obligé de faire une plus longue pause. Mais c'est pas grave, on a passé au travers de tous les sujets qu'on avait prévus.
Ben oui, c'est une réussite.
Ce qui est assez rare, en espérant que les auditeurs ont apprécié. Je pense que oui, parce qu'à chacun de tes passages, je me fais dire que c'est des passages qui sont appréciés.
Ben, merci.
Fait qu'on se rejase soit la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après. Pour les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, sebastclavet.com.
Exactement.
Toujours un plaisir. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Élodie est en train de cogner à la porte, là, je l'entends. Arrive avec le meilleur du rock à Québec. Et voilà, on se rejase demain, 11h30, pour ce qui est de Marceau le midi. Bye-bye, merci.
Marceau le soir.
L'atelier célèbre son 11e anniversaire. Pour l'occasion, participez à une soirée originale et festive le 20 juin prochain sous la thématique New Country. Les billets sont au coût de 150 $ et les profits de la soirée seront remis au Centre CASA, organisme venant en aide aux personnes atteintes de dépendance. Taureau mécanique, jongleur et cracheur de feu, troupe de danse, Blue Ridge Band, bulles, vin et bière à volonté. À l'atelier, on ne fête pas à moitié. Achetez vos billets sur bistroatelier.com.
Pour la réparation et l'entretien de votre roulotte ou fifth wheel, pensez à Motorisé de la Capitale. Peu importe la marque et où vous l'avez acheté, on peut la réparer. Prenez rendez-vous, pensez VR Pro Motorisé de la Capitale. Sortie 305 de l'autoroute 20, mdlc.ca.
Mercado.fm, c'est la nouvelle adresse qui regroupe une tonne d'offres locales à prix imbattable. Découvrez une multitude d'entreprises et marchands québécois. Cliquez sur nos offres pour en connaître davantage et profitez du meilleur prix chaque fois.
Obtenez une thermopompe Panasonic d'une valeur de 6 400 $ pour 3 200 $ chez Miville Solutions. Ou encore un accès familial à la piscine-plage de la Cache à Maxime d'une valeur de 51 $ pour seulement 22 $50.
Un marché de proximité où l'achat local est une priorité. Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez.
C'est le temps des déménagements.
Gratuit, gratuit.
C'est aussi le temps des téléchargements.
Oh!
Ne partez pas sans l'essentiel. L'application de Télé-Québec.
Tout est ici.
Tout.
Tout est gratuit.
Gratuit.
Télécharge l'appli.
Oui, tout est là-dessus. Films, séries, docu, recettes.
Une pizza extra large avec ça.
Du divertissement pertinent et c'est...
gratuit. Gratuit.
Êtes-vous sûr que c'est gratuit?
Alléluia!
Téléchargez l'appli de Télé-Québec.
Gratuit, gratuit, gratuit!
Ça vaut cher et c'est gratuit!
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, on veut que vous profitiez en grand de l'été qui approche. On peut vous faire voir le ciel en grand à travers un toit ouvrant conçu sur mesure pour votre Volks. On agrandit votre Volkswagen avec des supports pour les vélos, les canots ou les kayaks. On vous permet de profiter des grands espaces en tirant une roulotte ou un bateau. Ou encore, on pose des pellicules anti-UV sur vos vitres pour rendre vos déplacements grandement confortables. Même les plus petits accessoires chez Volkswagen Saint-Nicolas feront une grande différence dans vos plaisirs d'été.
Les nouveaux jeudis explosifs du complexe du Phoenix. Ça part fort dès 17h avec bar à nachos gratuit, assiette de tartare à 19,95 $ et 2 pour 1 sur les verres sélectionnés. Aussi, chansonnier DJ et vodka québécoise Dirty Devil, pas cher. Les jeudis au complexe du Phoenix.
Marceau, le soir. Le soir.
Jusqu'au 11 juin, chez Cora, le menu enfant est à 1 $. Et en plus, Cora donne ce dollar au club des petits déjeuners.
Attendez, attendez. Vous pouvez répéter?
Oui, bien sûr. Jusqu'au 11 juin, chez Cora, le menu enfant est à 1 $ et...
1 $?
Oui. Détail en restaurant.
Desjardins Entreprises accompagne 396 000 entrepreneurs partout au Québec. Et pendant que nos membres sont centrés sur leurs nombreux défis comme...
Trouver des programmeurs pour développer mon logiciel.
Absorber la hausse du coût des matériaux.
Accueillir les travailleurs étrangers.
Hola! Hola!
Moderniser toute la machinerie.
Valoriser nos déchets agricoles.
Aller chercher du capital pour propulser notre croissance.
Desjardins Entreprises est centré sur une chose. Les aider à relever tous ces défis avec brio.
Hey, dors-tu?
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
T'as entendu quelque chose, toi?
Non.
Mais t'as pas fait partir la thermopompe?
Ben oui.
Ah, oh, OK.
Avec EnviroConfort, dormez toute la nuit et sans un bruit. Cet été, profitez des meilleurs rabais pour vous procurer votre thermopompe ou votre climatiseur. EnviroConfort.com, le choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation.
Boulevard 102 dans votre char. Québec, Sainte-Catherine, Saint-Og, en dessous du viaduc sur Duplessis, Lévis, Laurier Station. Plus loin que ça, Boulevard 102 1, l'application.
Boulevard 102 1.
Votre meilleur allié pour les vacances, c'est Escale VR Beaumont, la référence pour l'achat ou la location de votre véhicule récréatif. Nous avons plusieurs modèles en inventaire pour livraison immédiate. Profitez de rabais, taux d'intérêt compétitifs et financement sur place. Venez nous voir chez Escale VR Beaumont, sortie 337 de l'autoroute 20.
C'est la folie cette semaine chez LaVue.ca. C'est tellement fou que LaVue.ca t'offre l'examen de la vue gratuit et la monture gratuite. Dépêche-toi de réserver, ça vaut le détour. Promotion disponible à Sainte-Foy, Beauport et Fleur-de-Lys. Détails en magasin du 5 au 11 juin. Véronique Michaud-Tienne. L'atelier célèbre son 11e anniversaire. Pour l'occasion, participez à une soirée originale et festive le 20 juin prochain sous la thématique New Country. Les billets sont au coût de 150 $ et les profits de la soirée seront remis au Centre CASA, organisme venant en aide aux personnes atteintes de dépendance. Taureau mécanique, jongleur et cracheur de feu, troupe de danse, Blue Ridge Band, bulles, vin et bière à volonté. À l'atelier, on fête pas à moitié. Achetez vos billets sur bistroatelier.com.
Ce jeudi et vendredi, ne manquez pas la vente entrepôt chez Canabec. Économisez sur toutes nos viandes de gibier telles que 4 burgers à partir de 9,99 $. De plus, obtenez 2 cuisses de poulet confites portugaises ou jamaïcaines pour 6,99 $. Canabec, 115 des Grands Lacs à Saint-Augustin.
À tous ceux qui sont là depuis qu'on s'appelait C'est quoi? À ceux qui ont connu le lancement de Boulevard en 2015 avec un son digne de la voix du bonhomme carnaval. À ceux qui étaient là en tabarnouche le matin. Puis ceux qui savaient qu'à la gang, on sait tout. À ceux qui ont assisté au début du rock au 102.1. À ceux qui viennent d'arriver puis qui nous aiment déjà. À ceux qui nous aiment encore plus depuis que ça griche plus. À ceux qui prennent le temps de nous texter puis nous appeler. Vous êtes des vrais de vrais. Puis nous autres à Boulevard 102.1, on salue les vrais.
Hey.
Merci!
LVD 102.1.
Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère. Le rappel d'Elo, c'est maintenant. Avec Elodie Derry.
Salut les amis, bon mardi et bienvenue à Boulevard 102.1. Salutations à l'ami Yannick Marceau qui était juste avant moi. Manquez pas ça, hein? De 18h à 19h, de longues conversations, des entrevues intéressantes avec des gens de tous les milieux dans l'émission Marceau le soir, animée par mon collègue avec qui je partage aussi l'émission du midi. On est très originaux dans nos titres d'émission. Donc le midi, ça s'appelle Marceau le midi. Et vous pouvez nous écouter de 11h30 jusqu'à 14h. Mais là, place à la musique. Mon nom est Élodie Derry. Je vous accueille dans le rappel des lots. On est ensemble pour la prochaine heure. On commence le tout avec Panic at the Disco, Tom Petty qui s'en vient. Et voici Pearl Jam, Better Man.
Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more, she practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. To herself, there's no one else who needs to know. She tells herself, we'll be right back.
Thinking about you, you're in my head. Even without you, I still feel dead. Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life?
BLVD 102.1.
Well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding! Says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame! What a shame! The poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of? Closing a goddamn door. No, it's much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality. I chime in. Haven't you people ever heard of? Closing a goddamn door. No, much better to face these kinds of things with a sense of. Well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved.
Nets and some black boots, nose pierced with the cigarette perfume. Half dead, but she still looks so cute. She is a monster in disguise, and she knows all the words to the trap songs. Takes pics with her cherry red lipstick, says she only dates guys with the big.